Laudetur Jesus Christus.
L'Ukraine en toile de fond de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky doivent s'y exprimer ce mercredi. L'Ukraine ou les territoires soumis à Moscou ont annoncé des référendums sur un rattachement à la Russie. Nous retrouverons notre correspondant sur place. L'Iran secoué par des manifestations depuis plusieurs jours. La colère grandit dans le pays après la mort d'une jeune femme suite à son arrestation par la police des mœurs. Elle ne portait pas de voile. Les condamnations du régime islamiste se multiplient, y compris dans le camp politique. Dans ce journal également, nous irons au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, où le chef des opérations militaires luttant contre le groupe armé M23 a été arrêté. Il est accusé de trahison. Enfin, dans notre dossier, gros plan ce matin sur l'état des prisons en France et la question de la réinsertion. Cet été, une polémique après du karting en prison a eu lieu. On en parle à ce matin avec Mgr Emmanuel Toy. Il est le vicaire général du diocèse de Paris, mais fut également magistrat et connaît bien l'univers carcéral.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, un discours très attendu aujourd'hui mercredi à la tribune des Nations Unies. Le président américain Joe Biden doit prendre la parole dans le cadre de l'Assemblée générale de l'organisation. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement vont se succéder ces prochains jours à la tribune. L'occasion de revenir bien sûr sur les dossiers brûlants de la diplomatie internationale et les nombreuses crises qui défigurent la planète, à commencer cette année par la guerre en Ukraine. À New York, Loïc Glory.
L'invasion de l'Ukraine est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies, déclaration hier d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies. Cette semaine, c'est bien la guerre, déclenchée le 24 février par Moscou, qui sera au cœur de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera ainsi par vidéo, un conseil de sécurité spécial réunissant les ministres des Affaires étrangères des pays membres sera aussi organisé jeudi. Hier matin, en ouvrant la session, le secrétaire général des Nations Unies a toutefois pris un peu de hauteur et rappelé que le monde était vaste et les urgences nombreuses. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, a dit Antonio Guterres, les inégalités explosent et notre planète brûle. Un constat particulièrement sombre, d'autant plus, assure-t-il, que le monde est paralysé par un dysfonctionnement colossal. Ne nous berçons pas d'illusions, conclut-il, un hiver de grogne mondiale se profile à l'horizon. New York, le Éclairé Radio Vatican.
Et dès cette fin de semaine, les populations de quatre régions ukrainiennes contrôlées par des séparatistes pro-russes se prononceront par référendum sur leur rattachement à la Russie. Un scénario qui rappelle 2014 et l'annexion de la Crimée, à cette différence près qu'il s'agit de territoires où se poursuivent les combats et où Moscou subit de douloureux revers. À Moscou, justement, on retrouve Jean-Didier Revoin.
Le succès de la contre-offensive ukrainienne a certainement contraint Moscou à accélérer la manœuvre. Du 23 au 27 septembre, les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia voteront pour rejoindre la Fédération de Russie. Une façon pour Moscou de reprendre la main, car les implications de ce vote, dont le résultat laisse peu de doute à l'instar de ce qui s'est passé en Crimée en 2014, sont déterminantes. À partir du moment où Moscou reconnaîtrait ses territoires comme les siens, la Russie elle-même serait attaquée, ce qui signifierait la fin de l'opération spéciale chère au Kremlin. Un moyen d'intimider Kiev et ses alliés occidentaux pour qu'ils calment le jeu, c'est possible. À en croire l'ancien président Dmitri Medvedev, la transformation géopolitique du monde deviendra irréversible après l'intégration de nouveaux territoires à la Russie. De quoi laisser songeur sur les moyens dont Moscou dispose encore pour mener à bien son opération spéciale. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Et le président Vladimir Poutine qui vient tout juste de s'exprimer à la télévision russe, il annonce une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. La Russie est prête à utiliser tous les moyens pour se défendre, vient aussi de déclarer le chef de l'État russe. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Sans se prononcer sur les référendums d'annexion à l'est ou au sud de l'Ukraine, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui appelé à la fin des hostilités. Ensemble, nous devons trouver une solution diplomatique raisonnable qui offrira aux deux parties une sortie digne de la crise, a-t-il dit à la tribune des Nations Unies. Et puis sur le terrain, les combats se poursuivent. poursuivent toujours. L'opérateur nucléaire ukrainien Enerko Atom a accusé ce matin la Russie d'avoir de nouveau bombardé le site de la centrale de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les terroristes russes ont bombardé à nouveau cette centrale, a indiqué Enerko Atom sur Telegram. Je vous le disais en titre, les manifestations se multiplient depuis dimanche en Iran après la mort de Mahsa Amini. Cette jeune femme de 22 ans d'origine kurde avait été arrêtée la semaine passée par la police des mœurs alors qu'elle portait une tenue vestimentaire jugée inappropriée. La détenue était ressortie du commissariat sur un brancard dans le coma avant de mourir 3 jours plus tard à l'hôpital. Depuis, les manifestants fustigent le régime islamique et quelques députés osent même élever la voix d'Eleïde Patrignani.
Oui Olivier, et c'est inhabituel dans le régime des mollahs, un député kurde demandant à ce que soient revues les méthodes de la police des mœurs, un autre qui dénonce son action contre-productive ou encore un parlementaire suggérant carrément la suppression de cette unité en charge de faire respecter un code vestimentaire strict pour les femmes. Le président du Parlement iranien a lui-même assuré que les lois seront modifiées pour encadrer l'action de la police des mœurs. Mais ces tentatives d'apaisement sont une goutte d'eau à côté de la colère des manifestants. Du Kurdistan iranien à Téhéran, en passant par des cités balnéaire d'ordinaire calme, elle ne faiblit pas. Femme, vie, liberté, abat le dictateur, mort à Khamenei, le guide suprême. Les slogans s'en prennent au régime et s'attaquent au port obligatoire du voile, un dogme de la République islamique d'Iran. Dans des manifestations d'étudiants, de nombreuses femmes ne portent pas de foulard. Certaines l'ont même brûlé en public sous les applaudissements de la foule. Une foule réprimée par la police à coups de matraques, de gaz lacrymogènes et d'arrestations, comme au Kurdistan où le gouverneur a fait état de 3 morts. Les médias officiels dénoncent l'action de groupes contre-révolutionnaires parmi les manifestants. Un nouveau bras de fer donc commence entre la population iranienne et le régime.
Merci beaucoup Adélaïde Patrignani. En Tunisie, le chef du parti islamiste Ennahda et ancien parti au pouvoir, Rached Ranouchi, est attendu aujourd'hui une nouvelle fois devant le pôle antiterroriste. Le parti Ennahda, l'un des piliers des gouvernements qui se sont succédés au pouvoir depuis la révolution de Jasmin en 2011, est soupçonné par ses détracteurs et une partie de la classe politique d'avoir facilité le départ de djihadistes tunisiens vers la Syrie ou l'Irak. Le parti Ennahda qui dénonce une persécution contre lui. Direction l'Afrique en République démocratique du Congo. L'officier en tête des opérations contre le groupe armé M23 au Nord Kivu a été arrêté et conduit à la prison centrale de Kinshasa. À la tête d'une zone militaire qui regroupe 5 provinces, dont le Nord Kivu, il serait accusé de trahison et de collaboration avec certains officiers du M23 qui occupent la ville de Bunagana depuis plusieurs mois. Les précisions de notre correspondant à Goma, Augustin Mossangué.
La nouvelle a commencé à circuler la matinée du mardi. Le lieutenant général Filemu Yavirunga a été arrêté et transféré dans la prison centrale de Makala à Kinshasa. Si les officiels s'interdisent de commenter cette information, plusieurs sources concordantes parlent d'une trahison présumée. Son dossier est géré par l'autorat militaire des FRDC, les forces armées de la RDC, avec possibilité de fixer un éventuel procès. Filemu Yavirunga aurait été auditionné il y a 3 semaines avec d'autres officiers supérieurs de l'armée congolaise, eux remis en liberté. Une histoire de collaboration avec des dirigeants du M23, groupe rebelle accusé par la RDC d'être soutenu par le Rwanda et qui occupe Bunagana depuis plusieurs mois maintenant. Dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, se murmurent dans les rues. Filemu Yavirunga, lieutenant général des forces armées de la RDC, alors commandant de la 3e zone de défense, regroupant 5 provinces à l'est du Congo dans le Nord Kivu, avait été nommé, on se rappelle, par le président Tshisekedi le 17 juillet 2022, commandant des opérations militaires au Nord Kivu, notamment contre les M23 dans le Rutshuru. Le civil du Nord Kivu dit attendre la vérité dans ses dossiers. Goma, Augustin Mossangué, Radio Vatican.
Plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays subsahariens sont arrivés ces derniers jours dans le nord du Niger, après avoir été refoulé d'Algérie. Information transmise par les autorités de Niamey, une information confirmée par l'Organisation mondiale des migrations qui n'a cependant pas donné de chiffres précis. C'est la 2e fois ce mois de septembre qu'un tel afflux de migrants africains sont refoulés d'Algérie. Et puis l'Éthiopie a rejeté hier un rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, rapport accusant Addis Abeba de possibles crimes contre l'humanité dans sa guerre contre les séparatistes du Tigré. Le gouvernement éthiopien est aussi soupçonné d'utiliser l'aide humanitaire comme arme de guerre dans ce conflit qui dure bientôt depuis 2 ans. La prison doit favoriser la réinsertion, mais doit-elle se transformer en centre de loisirs? À l'instar de ce syndicat représentant les forces de l'ordre, plusieurs voix se sont élevées en France cet été pour condamner l'organisation d'une émission vidéo. Une émission mettant en scène une olympiade dans la prison de Fresnes, la deuxième prison française située dans le Val-de-Marne, région parisienne. On y voyait des détenus et des gardiens engagés dans une course de karting ou une épreuve de tir à la corde. Monseigneur Emmanuel Toy, depuis le mois de septembre 2021, le vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Mais il fut magistrat pendant 16 ans et reste proche de l'univers carcéral. Pour Monseigneur Toy, non seulement l'expiation et le divertissement ne sont pas incompatibles, mais surtout, avec cette polémique, on se trompe de débat. Il revient ce matin dans notre dossier sur la fonction de la prison en France.
La peine en général, dans le droit pénal français, en particulier la prison, elle a une fonction punitive, une fonction d'expiation, mais elle est toujours tendue vers l'amendement de la personne, c'est-à-dire donc sa réinsertion et sa correction, le fait de redresser sa vie et de quitter le terrain de la délinquance. Donc il y a vraiment ces deux objectifs-là, et à l'intérieur même de la prison, il y a cet aspect très important de préparation de l'après, avec toujours l'espoir que la prison ait servi, ou beaucoup de gens pensent que c'est illusoire, servi à améliorer le comportement de la personne.
Et justement, est-ce que c'est possible? Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour commencer ce processus vers l'amendement? Et vers, du coup, la réinsertion, évidemment.
Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a l'adhésion de la personne, c'est le principal. Individuellement, il y a des gens qui sont vraiment désireux de redresser la barre. Ça se traduit d'ailleurs très souvent, et l'administration pénitentiaire en témoigne, par un comportement exemplaire en prison, qui n'est pas que pour donner à voir et espérer des réductions de peine plus importantes. Puis, des démarches faites en association avec tous les services qui existent, ils sont nombreux, pour préparer ensuite le retour à une vie professionnelle, familiale, voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'hypothèses dans lesquelles ça ne marche pas bien, et ça tient aussi, premier facteur, à l'adhésion ou non de la personne. Et il y a évidemment l'environnement qui rentre en ligne de compte. Et là, il y a beaucoup à dire sur le très mauvais état général des prisons, en France en tout cas, qui évidemment contrarie beaucoup ce qu'on peut souhaiter au relèvement de la personne, au redressement de la personne.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier pour que la dignité du prisonnier et son envie de pouvoir s'en sortir puisse se réaliser?
Déjà ça, c'est difficile. Ça invite à beaucoup d'humilité au moment où on a tous envie de jeter la pierre en direction des pouvoirs publics. La première chose qu'on aurait envie de dire, c'est l'urgence de remédier à la surpopulation. Mais beaucoup de gardes des Sceaux l'ont dit, ça veut dire ouvrir des places de prison. Et la nature ayant horreur du vide, on sait bien que plus il y a de place, plus on remplit. Actuellement, on a un taux, je crois, de surpopulation qui est de 117% au niveau national. À Fresnes, c'est 144%. Il y a, sur les lieux qui existent, vraiment une question de moyens qui est importante. C'est une chose d'avoir à dormir sur un matelas dans une prison. Ils sont pas loin de 2000 en France, ceux qui sont dans ce cas-là, sur 72 000 détenus. C'en est une autre, d'être obligé de se protéger, parce que quand on est au sol, on est parcouru par des bestioles, des cafards, des punaises de lit, des rats même, paraît-il, parfois. Il y a vraiment des questions de l'ordre des moyens et de l'entretien de la propreté. Il y a toute la question des soins. Il y a toute cette question de l'occupation du temps. C'est toujours facile d'avoir un peu de superbe pour dire il faudrait faire ceci ou cela et critiquer l'État qui a géré une situation qui est très complexe.
Du coup, ce n'est pas forcément une question de volonté politique, c'est vraiment une question aussi économique, si je comprends bien.
Oui, la volonté politique, elle passe, mais là aussi c'est difficile, par le fait d'éduquer la société, et notamment la population, au fait que la sanction de la prison, c'est la privation de liberté. On voit bien que traîne un peu dans l'idée d'une certaine opinion publique une idée qui est autour du châtiment. Il faut que la personne souffre, mais on va casser des gens. Et comme on sait que, à l'unanimité quasiment, à part les perpétuités avec des peines de sûreté très très élevées, tout le monde va un jour sortir. C'est une urgence sociale de faire sortir des gens qui soient en état de retrouver une vie à l'extérieur. C'est une volonté politique qu'il faut avoir, mais c'est aussi très difficile. Vous entendez encore beaucoup de gens qui disent « mais c'est pas normal qu'ils aient la presse, c'est pas normal qu'ils aient de la télévision, c'est pas normal qu'ils puissent y avoir des visites, c'est pas normal qu'il y ait des permissions de sortie de quelques jours pour préparer un peu une sortie, pour assurer un entretien d'embauche, des choses comme ça. Il y a une éducation à faire, qui n'est pas facile à faire, mais qui est urgente. »
Voilà, l'état des prisons en France et la question de la réinsertion à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Marie Duhamel, Monseigneur Emmanuel Toy, actuel vicaire général de l'archidiocèse de Paris et ancien magistrat, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Tout à l'heure, à 9h, vous pourrez retrouver et suivre en direct avec commentaires en français l'audience générale hebdomadaire du pape François. Une seule adresse, vaticannews.va. Une audience également à suivre sur notre page Facebook. L'information, elle reviendra en direct à 13h tout à l'heure à la mi-journée. Je vous souhaite une excellente journée.